بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. D'après Abi Ruqayya, Tamim ibn Aws al-Dari, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est la nasiha. Nous lui avons dit: envers qui? Il a dit: envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Et le hadith est rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci est donc le 7e hadith de ce livre immense qui est rapporté par le noble compagnon Tamim ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu. Et sa kunya est Abu Ruqayya. C'est donc une kunya avec un prénom féminin. Et ceci nous prouve la permission de cela. Bien que généralement, la kunya est donnée avec un prénom masculin et souvent du nom du premier enfant. Du nom du premier enfant, c'est-à-dire du premier garçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit dans ce hadith: ad-din an-nasiha. Et ce qui est visé ici par ad-din, c'est les œuvres, c'est-à-dire la religion. Car le mot din désigne deux choses, ou il se divise en deux catégories: les œuvres et la rétribution, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yawm ad-din, maître du jour d'ad-din, c'est-à-dire maître du jour de la rétribution. Alors que dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, wa raditu lakum al-islam dina, et j'agrée pour vous l'islam comme din, ici c'est-à-dire j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et dans ce hadith, le terme din, il désigne donc la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la religion est la nasiha. Et la nasiha désigne le fait d'épurer une chose. Et on pourrait traduire le terme nasiha ici de plusieurs manières, en disant par exemple: la religion est le conseil sincère, ou encore: la religion est la sincérité, ou encore: la religion est la loyauté. Et tout ceci sont des traductions rapprochées qui englobe le sens du terme an-nasiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a restreint la religion à la nasiha. C'est-à-dire que la religion tout entière est la nasiha. La religion tout entière est sincérité et loyauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné envers qui est la nasiha. Et ce afin que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils s'interrogent à ce sujet. Et le fait de mentionner tout d'abord une chose de manière générale, puis de mentionner les détails, c'est une des causes permettant de retenir la science. Car si la chose est directement mentionnée, de façon détaillée, cela attirera moins l'attention et ce sera moins retenu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par évoquer cela de manière générale. Et dans certaines versions du hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répéta à trois reprises. C'est-à-dire qu'il a dit: la religion est la nasiha, la religion est la nasiha, la religion est la nasiha. Et ce toujours dans un but d'attirer l'attention de l'auditeur et qu'il retienne ce qui va lui être mentionné comme science après cela. Ils ont dit: envers qui, au messager d'Allah? C'est-à-dire envers qui est cette nasiha? Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont donc interrogés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de savoir envers qui est la nasiha. Et ceci fait partie de leur désir d'apprendre la science, et ce bien sûr afin de la mettre en pratique. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. La nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique deux choses. La première, c'est le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. C'est-à-dire que tu dois vouer l'ensemble de tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne lui donner aucun associé. Et ceci fait partie de la nasiha. Ceci fait partie de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, fait partie de la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu attestes de son unicité, que ce soit dans sa seigneurie, dans sa divinisation, ainsi que dans ses noms et ses attributs. Ceci est donc la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nasiha envers le livre d'Allah, elle implique différentes choses. Premièrement, le fait de croire en ce qui s'y trouve comme information, et ce avec certitude, sans être touché par le doute. Car celui qui doute sur une seule des informations mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pire encore, dément une de ces informations, alors il n'est pas sincère, il n'est pas loyal envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de défendre le livre d'Allah et de repousser de lui toute altération et toute fausse interprétation donnée par les gens du faux. Ainsi, le musulman, il rejette cela et il croit au livre d'Allah selon ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses paroles. Troisièmement, il fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu te soumettes à ses ordres, c'est-à-dire à tous les ordres mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne se soumet pas, il n'est pas nasih, il n'est pas sincère, il n'est pas loyal envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu transgresses un ordre mentionné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu fais preuve d'un manque de sincérité et d'un manque de loyauté, d'un manque de nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose qui fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de s'écarter de ses interdits. De la même manière que tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans son livre, tu dois t'écarter de tous les interdits qu'il a mentionnés également dans son livre. Cinquièmement, fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de croire que ce qu'il comprend comme règles et comme jugements sont les meilleures règles et les meilleurs jugements. Et il n'y a pas de règles et il n'y a pas de jugement meilleur que les règles et les jugements qui sont mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait que tu crois avec certitude que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ses lettres et ses sens proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est réellement sa parole qui a été reçu par Jibril alayhi salam et qui l'a transmise à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont donc six points qui traduisent la loyauté et la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle se traduit de différentes manières. Premièrement, le fait que tu suives exclusivement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne suives nul autre que lui, et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ahzab au verset 21, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ainsi, si tu veux être sincère et loyal envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si tu veux faire preuve de nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu dois faire prévaloir sa parole sur la parole de tout autre que lui, parmi les hommes, et le suivre exclusivement, et ne suivre personne d'autre que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de croire qu'il est réellement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci implique de croire qu'il ne ment pas et qu'il ne peut pas être démenti, car il est le véridique, le digne de confiance, comme on l'a déjà mentionné dans l'explication d'un hadith précédent. Troisièmement, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois en tout ce dont il a informé, que ce soit au sujet des choses passées ou des choses futures. Tu dois croire fermement en cela et n'avoir aucun doute à ce sujet. Quatrièmement, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu te soumettes à ses ordres. Et cinquièmement, que tu t'écartes de ses interdits. Ceci sont donc le quatrième et le cinquième point impliqué par la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu te soumets à ses ordres et tu t'écartes de ses interdits, sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu défendes sa législation et que tu défendes sa sunnah, que tu défendes la législation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu défendes sa sunnah. Septièmement, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu aies la ferme conviction que ce qui provient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est comme ce qui provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quant au fait que tu dois t'y soumettre et quant au fait que tu dois le mettre en pratique. En effet, ce qui est confirmé dans la sunna est comme ce qu'il y a dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya ayyuha alladina amanu, ati'u allaha wa ati'u rasul » « Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers » Et ceci est le verset 59 de la sourate An-Nisa. Et dans le verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man yuti'i rasul faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et ceci est le verset 7 de la sourate Al-Hashr. Ceci sont donc des points permettant aux musulmans d'être loyal, d'être sincère et de faire preuve de nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite dit dans ce hadith, envers les imams des musulmans. C'est-à-dire que la nasiha doit aussi être pour les imams des musulmans. Et ceci désigne deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont les savants. C'est-à-dire ceux qui ont hérité de la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce en termes de savoir, mais aussi en termes d'œuvres, en termes d'adoration, de prêche et de comportement. Les savants, ils sont donc des détenteurs de l'autorité au sein de la communauté, et c'est eux qui exposent aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils invitent également les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le deuxième groupe désigné par les imams des musulmans, ce sont les gouverneurs, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et qui ont pour rôle d'exécuter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leur propre personne ainsi que sur les gens sur lesquels ils ont autorité. Les savants, ils exposent donc la religion aux gens et les gouverneurs, ils l'exécutent parmi les gens. Et la nasiha envers les savants, elle a lieu de différentes manières. Premièrement, en les aimant. C'est-à-dire que le musulman, il doit aimer les savants. Et ceci fait partie de sa loyauté envers les savants, envers les imams des musulmans, qu'il aime les savants de la communauté. Car si tu ne les aimes pas, tu ne pourras pas les prendre pour exemple, tu ne pourras pas les suivre, tu ne pourras pas profiter de la science. Car celui qui n'aime pas une personne, il va la rejeter, il va s'en écarter. Deuxièmement, il fait partie de la nasiha envers les savants, envers les gens de science, de les aider dans l'exposé et la clarification de la vérité. Et ce, en propageant leurs livres, en propageant leurs cours, en propageant leurs audios selon les moyens mis à notre disposition, et cela varie selon les époques et les endroits. Et il n'y a pas de doute qu'à notre époque, nous avons été grandement facilités à ce sujet. Il fait donc partie du bon conseil et de la loyauté envers les savants de la communauté que tu propages leur science, que tu propages leurs écrits, que tu propages leurs paroles au sein de la communauté. Troisièmement, il fait partie de la nasiha envers les savants, de défendre leur honneur lorsqu'ils sont dénigrés injustement. Lorsque tu entends qu'une personne dénigre un savant, parmi les savants de l'islam, parmi les savants de la sunna, tu dois alors défendre son honneur, répondre à cette personne avec science et sagesse, afin de réfuter cette critique injuste et souvent fausse à l'égard de nos savants. Cependant, il est important de savoir qu'il ne fait pas partie de la nasiha, il ne fait pas partie de la loyauté que tu défendes ton shaykh dans ses erreurs et que tu le soutiennes dans celle-ci. Au contraire, celui qui défend son shaykh lorsqu'il se trompe et qui propage les erreurs de son shaykh, qui propage une erreur d'un savant ou le défend et le soutient dans son erreur, alors celui-ci en réalité, il a trahi le savant et il n'a pas été loyal envers lui. Mais il l'a trahi et il a été injuste envers lui et ceux car il l'a soutenu dans l'erreur. Le quatrième point qui fait donc partie de la nasiha envers les savants, c'est que le musulman, il ne doit pas se taire sur les erreurs des savants. Cependant, ceci ne veut pas dire que le musulman doit dénigrer et critiquer les savants, mais ceci doit être fait avec respect et bon comportement, et ce, par les personnes qui en ont les aptitudes. Ainsi, lorsque le savant se trompe, car il n'est pas infaillible, seuls les prophètes, alayhi mussalat wa salam, parmi les hommes, sont infaillibles. Donc lorsque le savant se trompe, on ne doit pas accepter son erreur, mais on doit rejeter son erreur. Et ceci fait partie de la nasiha, ceci fait partie de la loyauté envers lui. Et certes, comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, de toute personne, nous prenons et nous rejetons, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la nasiha envers les gouverneurs, elle a lieu de la façon suivante. Premièrement, le fait que tu aies la conviction qu'ils sont des gouverneurs légitimes. Car celui qui n'a pas cette conviction, il ne sera pas sincère et loyal envers eux. Il ne se soumettra pas à leur jugement, il ne leur prêtera pas allégeance. Et ceci va conduire au désordre sur terre. Deuxièmement, fait partie de la nasiha envers les gouverneurs des musulmans, le fait de propager leurs qualités et leurs bonnes actions au sein de la communauté. Et ceci fait partie de la nasiha, car cela mène à les aimer et cela aide à la cohésion et à l'union entre le peuple et son gouverneur. Et ce contrairement à ce que font certains ignorants qui ne font que propager les défauts des gouverneurs. Ils propagent les défauts des gouverneurs sur Internet ou dans leurs assises et autres et ils cachent leurs qualités. Et il n'y a pas de doute que ceci est une injustice qui mène à la corruption sur terre. La troisième chose qui fait partie de la nasiha envers les gouverneurs, c'est de cacher leurs défauts, et ce autant que possible, car il ne fait pas partie du bon conseil, et il ne fait pas partie de la loyauté de propager leurs défauts, car ceci mène à la corruption, et cela mène au désordre, voire même à l'effusion du sang, comme on a pu le voir à travers les différentes révoltes qui ont eu lieu à notre époque. Ceci ne veut pas dire que l'on doit se taire face à l'injustice et au péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré une manière de porter le conseil au gouverneur. Et ceci doit avoir lieu secrètement. Et c'est ce qu'accomplissent nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Certaines personnes, ils pensent que sous prétexte que les savants ne dénigrent pas les gouverneurs publiquement, alors ceci implique qu'ils ne les conseillent pas en privé. Or, ceci est faux. Et ceci s'est produit à l'époque d'un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Les gens se sont plaints à lui et lui ont reproché son silence. Il a alors dit radiyallahu ta'ala anhu: voulez-vous que je vous informe de tout ce dont je discute avec le calife? Et ceci n'est pas possible. Il n'est pas possible que le savant, il vienne et dise publiquement tout ce qu'il a dit avec le gouverneur. Et ceci n'aiderait pas le gouverneur
à accepter son conseil. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que le conseil envers le gouverneur ait lieu secrètement. Et ceci comporte de grands intérêts, que ce soit pour le gouverneur en lui-même, mais également pour l'ensemble de la communauté, afin de préserver son union et son unité. Quatrièmement, il fait partie de la nasiha envers les gouverneurs de leur obéir, c'est-à-dire de se soumettre à leurs ordres et de s'écarter de leurs interdits. Et ce, bien sûr, dans le convenable. Car il n'y a pas d'obéissance au gouverneur dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'obéissance n'est que dans le convenable. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Et le fait d'obéir au gouverneur, ceci est une adoration. Et c'est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat An-Nisa au verset 59: Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le fait qu'ils commettent certains péchés, le fait que les gouverneurs commettent certains péchés, ceci n'est pas une excuse pour ne plus leur obéir. Leurs péchés sont contre eux-mêmes. Quant à toi, il t'est commandé de leur obéir, même s'ils commettent des péchés. Cinquièmement, il fait partie de la nasiha envers les gouverneurs des musulmans de ne pas se révolter contre eux. Et ce, ni par les actes, ni par la parole. Car certes, la révolte par la parole, elle mène à la révolte par les actes. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nasiha est également envers l'ensemble de la communauté ou envers la masse des musulmans. Il est demandé aux musulmans d'être sincères et loyaux envers l'ensemble de la communauté. Et ceci a lieu de différentes manières. Et ce, premièrement, en manifestant l'amour et la fraternité entre les musulmans. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Donc, il fait partie de la nasiha envers les musulmans que tu manifestes ton amour et que tu fasses preuve de fraternité avec tes frères musulmans. Également, ceci se traduit par le fait que tu les rencontres avec un visage radieux, avec un visage souriant, en leur passant le salam, en répondant à leur salam, en leur prodiguant le bon conseil, en les aidant dans le bien. Le musulman, il est donc sincère et loyal envers ses frères. Il ne les trahit pas. Il n'est pas injuste envers eux. Il ne les méprise pas. Mais il est sincère et loyal envers ses frères. Et ceci fait partie de la nasiha qui nous a été ordonnée envers l'ensemble de la communauté. Il fait également partie de la nasiha envers l'ensemble de la communauté, envers les gens de la communauté musulmane, que tu les préviennes d'un mal qui pourrait les atteindre. Ainsi, si tu vois qu'une chose peut être dangereuse ou nuisible pour tes frères, tu dois les avertir. Aussi bien une chose qui peut être dangereuse et nuisible pour leur vie d'ici-bas, et plus encore une chose qui peut être nuisible pour leur religion. Et c'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ceci est donc une explication résumée de ce hadith. Et comme vous le voyez, malgré que ce hadith est court, il renferme de nombreux bénéfices. Et il renferme un grand bien pour le musulman, que ce soit ici-bas ou bien dans l'au-delà. Car il mène à l'application de sa nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers son messager, ainsi qu'envers les dirigeants, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Enfin, pour terminer, nous allons citer brièvement quelques bénéfices que renferme ce hadith. Premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'importance d'un nasiha. et principalement envers ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la bonne manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner à ses compagnons. Le bon enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car comme on l'a dit, il a mentionné tout d'abord la chose de manière générale, puis il est venu avec les détails, et ce afin d'attirer l'attention des auditeurs. Troisièmement, parmi les bénéfices que renferme ce hadith, il y a le désir des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, d'apprendre la science, et le fait qu'ils posaient des questions profitables. Ils n'ont pas laissé une chose que les gens ont besoin de comprendre sans interroger à son sujet. Comme dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Dinan Nasiha, ils ont immédiatement demandé envers qui au messager d'Allah? Envers qui au messager d'Allah? Ils posaient donc des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces questions, elles nous profitent encore jusqu'à nos jours. Quatrièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait de commencer par les choses les plus importantes. Comme dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé tout d'abord par la nasiha envers Allah, par la nasiha envers Allah, puis envers son livre, puis envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, puis envers les imams des musulmans, puis envers l'ensemble de la communauté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dans ce hadith fait précéder le livre au messager. Mais la nasiha envers le livre, elle implique nécessairement la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme la nasiha envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, implique la nasiha envers le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Cinquièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'obligation de porter le bon conseil aux dirigeants des musulmans. Et ce, de la manière que l'on a mentionné. Ceux-ci sont donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.